J'imagine, la dernière fois qu'on avait un flic, c'est moi qui ai cédé. Cette fois-ci, c'est toi qui dois céder. Quand on avait le conflit, est-ce qu'on continue avec le clan Israël ou pas? Moi, je voulais pas, et toi, tu voulais, et c'est moi qui ai cédé. Maintenant, tu veux entrer en Eretz Israël, moi, je veux pas. C'est toi qui dois céder. Mais si tu veux, on refait l'histoire. C'est toi qui cèdes après le veau d'or. Dans ce cas-là, tu pourras entrer. Ça veut dire, tu cèdes, ça veut dire, je construis un nouveau clan Israël avec toi. Et à ce moment-là, tu pourras entrer en Eretz Israël. Mon cher Avignon, non, non, non. On laisse les choses comme elles sont. Je n'entrerai pas. Alors, quand Hachem a cédé, il y a plusieurs façons d'entendre ce passé vraiment. Alors, je voudrais suivre l'enseignement de Gaon de Vilna, qui dit qu'en réalité, Hachem n'a pas cédé au sens où il a pardonné. Il leur a donné un sursis. On verra après que cette histoire de sursis, c'est pour le Gaon de Vilna une caractéristique qui va se retrouver dans Yom Kippour. Il a donné un sursis et malheureusement, le sursis est tombé au moment des Meraglim, le sursis est tombé, c'est-à-dire les nez ont été morts. La condamnation à mort du veau d'or s'est appliquée là. Mais elle s'est appliquée de Tresselion, en fait. Hachem a bien détruit une partie du clan d'Israël. Il a détruit, il a condamné à mort tous les hommes qui étaient valides, pardon, qui avaient 20 ans ou plus, donc, au moment de la sortie d'Égypte. Ces gens-là ont été condamnés à mort et ils sont morts durant les 40 ans de pérégrination des Bnei Israël. Au point que quand les Bnei Israël sont arrivés au moment où ils allaient entrer en Eretz Israël, il n'y avait plus personne de ces gens qui étaient adultes au moment de la sortie d'Égypte, de ces gens qui ont vécu la sortie d'Égypte, qui ont vécu le passage de la mer, qui ont vécu le Matan Torah. Tous les adultes sont morts, tous, sauf deux, sauf Caleb et Yoshua. Même pour d'autres raisons, mais même Moshe et Aaron non plus ne sont pas là. Eux non plus n'entreront pas en Eretz Israël. Par contre, ça n'a touché que les hommes et pas les femmes. Pourquoi? Parce que dans le veau d'or, les femmes n'ont pas volontairement donné leur or. Hazal explique que nous avons arraché les bijoux des femmes, les bijoux en or des femmes, pour les amener à Aaron pour qu'on les mette dans le fameux creuset dont est sorti le veau d'or. Et donc, les femmes n'ont pas été condamnées à mort. Et donc, c'est un peuple très curieux, si on veut regarder ça de cette manière-là, qui va entrer en Eretz Israël. C'est un peuple où il y a toute une population de veuves qui entre en Eretz Israël, en particulier avec leurs enfants, avec ceux qui sont leurs enfants et qui n'avaient pas 20 ans au moment de la sortie d'Égypte. Alors, bien sûr, donc voilà la situation. Donc, les Bnei Israël, effectivement, condamnés à mort, si vous voulez, mais la condamnation à mort, elle s'est exécutée de la manière que je viens de décrire, à la suite de le sursis en question est tombé. Deuxième rabbin. OK. Donc, à un moment donné, donc, Hachem a cédé aux intercessions de Moshe Rabbeinu. Il a cédé Et ça s'est traduit par trois choses fondamentales. D'abord, Moshe Rabbeinu avait brisé le premier loupot quand il a appris qu'Israël avait pratiqué, avait fait le veau d'or. Et donc Hachem a accepté de donner des deuxièmes loupot, on va en parler. Deuxièmement, alors, le Shem Hachem, le tétragramme, une des lectures du tétragramme, c'est de lire Haya Ove Veyeh, il était, il est, il sera, ou Mehaveh Hakol, il fait exister toute chose, et aussi il est le maître, Adon Hakol. Donc ce nom divin, c'est ce nom divin qui donne l'existence à tout ce qui existe. Mais ce nom divin n'a donné au départ l'existence que si on ne faisait pas une faute majeure. Et donc c'est ça que Hachem a dit, je vais les détruire. Ça veut dire, le nom divin que j'ai utilisé pour créer le monde, était un nom divin qui faisait exister le monde, exister donc l'essentiel du monde, c'est l'Israël, à partir du moment où il y a toutes ces, tout ce dont parle de Hachem, etc., le fait que c'est Adam n'a pas fait ce qu'il fallait, mais c'était à la charge de l'humanité, l'humanité n'a pas fait ce qu'il fallait, et c'est Avraham Avinu qui a pris la charge de faire ce qu'il fallait. Donc, quelque part, les choses dépendent des descendants d'Abraham Avinu, en partie, enfin, du descendant d'Abraham Avinu, de Yitzhak, la partie d'Yitzhak qui est Yaakov, etc. Et donc, ben, il y avait, quand Hachem cède, ben, il a donné un deuxième exemplaire de ce même nom divin, mais qui, cette fois-ci, est un nom divin qui est, disons, qui n'est pas sensible à la faute. Ça veut dire, il continue de donner la vie, même si on fait des fautes. Et même si on fait des fautes majeures. Donc cette idée qui est, par exemple, quand dans les psukim, Hachem dit, même quand je les enverrai en galoute, etc., Logan, je ne les vomirai pas, je ne les abandonnerai pas complètement. Il y aura un minimum de gens qui vont avec lesquels je vais faire vivre le clan d'Israël, même quand le clan d'Israël aura fait les pires choses, et je les enverrai en galoute, etc., mais ils vont pas complètement disparaître. Donc, c'est ça, il a donné un deuxième nom divin. Donc, deuxième table, deuxième nom divin. Et la troisième chose, il a donné à Moshe Rabbeinu, il a enseigné à Moshe Rabbeinu comment on peut prier, comment on pourra prier après la faute. À la limite, si vous voulez, quand quelqu'un a fait une faute, comment il peut se tenir devant Hachem et demander? Tu te fiches du monde, comment entends-tu? Je t'ai donné des choses à faire, tu fais le contraire de ce que je t'ai dit. Et maintenant, tu viens me demander des trucs. Alors, Hachem a expliqué à Moshe Rabbeinu comment il va devoir prier pour obtenir le pardon, pour qu'on puisse continuer, quoi. Alors, il lui a montré, voilà, tu vas désigner ce qu'on appelle un shliach tzibour, tu vas désigner un officiant, qui va mettre son talit sur sa tête et qui va réciter les Shlosh Esrei Midot de Rachamim. Il va réciter les fameuses 13 mesures de, moi je traduis tendresse, si vous voulez traduire par miséricorde, vous pouvez. J'en dis pas comme ça parce que je sais pas ce que ça veut dire miséricorde. Donc je traduis par tendresse, je comprends ce que je dis. C'est quoi ces 13 midot? C'est un texte de la Torah que tout le monde connaît, et qui commence Hachem, Hachem, Tel, Rachum, Bechanun, etc. Il y a 13 mentions de la tendresse divine, 13 façons pour cette tendresse divine de s'exprimer. Par Shemel Longanim, il se met pas définitivement en colère, etc. Tu récites ça. Enfin, il récitera ça, de Shmertivu. Et moi, je pardonnerai. Cette façon d'obtenir le pardon, elle est un peu étrange, parce que ça ressemble un peu au moulin à prière, quoi. Tu vas dire ça, voilà la recette, il faut dire ça, dire ça, puis ça passe. Non, c'est un Shmertzibour qui parle pour tout le monde. Oui, c'est collectif, mais au sens où il y a quelqu'un qui va lire pour tout le monde.
Mais la question, c'est savoir comment prier après la faute.
Pour le clan Israël. Comment prier pour le clan Israël? Il faut désigner quelqu'un qui va représenter le clan Israël et qui va faire cette procédure-là.
Et à titre
Si vous voulez
individuel.
cette procédure-là, avec quelqu'un qui représente Israël, ça fait tout de suite penser au Kohen Gadol qui fait la Avodah Yom Kippour pour tout le monde. Aujourd'hui, nous, on ne connaît plus ça, parce qu'il n'y a pas de Kohen Gadol. Donc aujourd'hui, dans le clan Israël, chacun, personne ne fait le job pour vous. Si vous ne le faites pas, il ne sera pas fait. Donc chacun doit prier pour soi, en fait. Alors, on prie en collectivité, toujours avec un minyan, mais chacun doit faire le travail lui-même. Et c'est Shlosh Esre Midot, ce texte-là, en réalité, si vous regardez, si vous prenez votre marzor de Yom Kippour, vous verrez que à Yom Kippour, il y a les trois prières quotidiennes, Arvit, Shacharit, Mincha. Comme c'est Yom Tov, il y a un moussaf. Et comme c'est un jour de jeûne, il y a une prière supplémentaire qui s'appelle Ne'ilah. C'est une prière qui est liée au Tanit. C'est pas chez nous, on le fait seulement à Kippour, mais au temps où il y avait toutes sortes de Taniot, on faisait les jeûnes, donc par l'Agmara Tanit, quand on priait pour la pluie, quand il n'y avait pas de pluie, etc. Et on faisait Ne'ilah, une prière supplémentaire juste avant Mincha. Pardon, non, après Mincha. Après Mincha. Et on part ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement Yom Kippour alors? Eh bien, il y a que pendant Yom Kippour, on récite les Shloshesh Les Sfaradim. Sur la totalité de Yom Kippour, depuis le soir jusqu'au matin, jusqu'au soir d'après, ils disent 26 fois les Shloshesh Midot dans la journée dans Yom Kippour. Les Ashkenazim, c'est pas loin non plus, mais ils sont pas, on va pas, chez nous, 26, c'est pas obligatoirement un chiffre sur lequel on s'appuie tout le temps, parce que 26, c'est la gématria du Shem Hashem. C'est pour ça qu'ils ont choisi 26. Jamais compté combien, mais c'est pas loin de ça non plus. Je suis